capo alla source.
Caroline.
Bonjour à tous et bienvenue pour cet ultime thème de la première saison d'Anti-Histo Amétropique, votre émission d'histoire locale ou lointaine sur Radio Vassivière. Alors pour aujourd'hui, on reste en Europe et on va s'intéresser à un conflit ayant opposé la France, alliée notamment à l'Empire Ottoman, le Royaume de Sardaigne et l'Angleterre, à la Russie. La guerre donc de Crimée. Ce conflit a débuté le 29 septembre 1853 avec la déclaration de guerre des Ottomans envers l'Empire russe. La France, quant à elle, entre en guerre à partir du 27 mars 1854. Les belligérants scellent finalement la défaite du tsar le 30 mars 1856 par le traité de Paris. Cette guerre, qui est très peu abordée en France, est pourtant très importante historiquement, puisque la typologie des combats préfigure déjà la Première Guerre mondiale. En effet, c'est l'un des premiers conflits que l'on peut qualifier de moderne et présentant de longs mois de guerre de position où l'artillerie a eu une place majeure. L'autre aspect important de ce conflit, c'est le retour de la France sur la scène internationale avec l'alliance franco-anglaise, appelée alors Entente Cordiale, qui a toujours cours aujourd'hui. Mais aussi une nouvelle étape de la déliquescence de l'Empire Ottoman qui va le conduire inexorablement vers son implosion, et aussi un frein à l'expansionnisme russe qui, rappelez-vous, subira un ultime camouflet de la part du Japon en 1905 avant sa chute lors de la Première Guerre mondiale. Mais avant de parler plus en détail de cette guerre, vous connaissez la chanson, commençons par le contexte. Ce contexte, nous allons d'ailleurs le développer sur tout cet épisode avant de parler véritablement du conflit dans le second. Et quand on parle d'histoire contemporaine de l'Europe, on ne peut que parler de notre star et dictateur national, Napoléon Ier. Remontons donc au 9 juin 1815, lors de la conclusion du congrès de Vienne. En 1813, pour mettre définitivement l'empereur français à genoux, se forme une alliance entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empire russe, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche, la quadruple alliance. Ils obtiennent la victoire et Napoléon est contraint d'abdiquer, entraînant la restauration et le retour au pouvoir des Bourbons avec Louis XVIII. Un congrès est réuni à Vienne pour régler le sort des territoires repris à Napoléon. Après la bataille de Waterloo, qui marque la défaite définitive de Napoléon, la France doit accepter un traité dont les conditions de paix sont rigoureuses. Désormais, la France perd son statut de puissance d'influence et est mise sous surveillance rigoureuse de la part des autres États. Les Anglais, grands vainqueurs, souhaitent mettre en place une Europe où les puissances s'équilibrent et se tiennent en respect les unes les autres. En effet, le Royaume-Uni veut tirer son épingle du jeu et maîtriser le commerce international. Une Europe en guerre ne peut qu'être un frein à son hégémonie. Toujours est-il qu'en 1853, la Russie conserve des liens étroits avec son fidèle allié contre Napoléon, l'Empire d'Autriche. Commençons par parler de la grande absente de la guerre de Crimée, l'Autriche. Et pour parler de l'Autriche de 1853, on doit parler tout d'abord de l'Italie de l'époque, et tout particulièrement d'un des belligérants aux côtés des Français, Anglais et Ottomans, le royaume du Piémont-Sardaigne. On remonte en 1815 à la chute de Napoléon. L'Italie était autrefois occupée par les troupes françaises de la célèbre armée d'Italie. Après le congrès de Vienne, elle est divisée en plusieurs états indépendants, donc du nord au sud. Le royaume de Piémont-Sardaigne, les duchés de Parme, Modène et de Toscane, les états de l'Église et le royaume des deux Siciles qui comprend tout le sud de l'Italie et bien sûr la Sicile. Au nord-est, la Lombardie et la Vénétie, peuplées majoritairement d'italophones, sont cédées à l'Empire d'Autriche. Et c'est là où le bât blesse. Cela va mine de rien jouer sur le cours de la guerre de Crimée. Puisqu'en plus de cette annexion de l'Autriche, cette dernière va avoir une grande influence sur toute la péninsule, en plaçant notamment à la tête des différents états des princes issus de la famille des Habsbourg, appelés aussi Maison d'Autriche, et qui dominent depuis plusieurs siècles le paysage des têtes couronnées européennes. L'Autriche a donc tout à gagner de laisser une Italie désunie. Seulement, voilà, un mouvement nationaliste a repris petit à petit racine et un rêve d'union commence à émerger. À partir de 1848 a lieu en Europe ce que l'on appelle le printemps des peuples, un ensemble de révolutions qui mettra à mal certaines monarchies, dont la monarchie de juillet de Louis-Philippe en France, laissant place à la Seconde République. Ou alors ces révolutions seront durement réprimées, mais seront déterminantes pour l'évolution des pays concernés. En Italie, des révoltes éclatent à Palerme, Naples, en Toscane, dans les états pontificaux et à Milan. Divers souverains accordent des constitutions. Si l'ordre est cependant ramené presque partout, c'est le début de l'unification du pays par le royaume de Piémont-Sardaigne, puisque le royaume profite du chaos pour partir à l'assaut de l'Autriche et récupérer la Lombardie et la Vénétie. Mais l'Autriche et la France de la Seconde République écrasent les révolutions. Résultat, la Lombardie ainsi que la Vénétie restent occupées. Le Piémont-Sardaigne est alors le seul état de la péninsule doté d'une constitution libérale, lui donnant ainsi une figure de modèle, mais aussi d'unificateur potentiel. Le nouveau monarque du Piémont, Victor Emmanuel II, ne laisse pas passer cette occasion et s'allie en 1852 avec le nouvel empereur français, Napoléon III. Tout ça pour dire qu'en 1853, au début de la guerre de Crimée, l'Autriche est menacée à l'ouest par la France et le Piémont-Sardaigne, et que ce dernier va s'engager aux côtés des Français et des Anglais afin de porter la question de la nationalité italienne sur la scène internationale à la faveur de la conférence qui ne va pas manquer de conclure les hostilités. De plus, en cas de victoire, l'image du Piémont comme leader de la cause italienne et puissance européenne ne peut que s'affermir. Sans compter le fait que la Russie étant l'allié traditionnel de l'Autriche, s'il est vaincu, l'Autriche s'en trouvera forcément impactée et unification probablement facilitée. Sans compter que l'Autriche a subi elle aussi des troubles lors des printemps des peuples. Des émeutes ont éclaté à Prague et à Vienne. L'empereur Ferdinand abdique en faveur de son neveu François-Joseph, l'homme qui sera à la tête du pays jusqu'à sa mort en pleine Première Guerre mondiale. La faiblesse momentanée de l'Autriche encourage les révolutions hongroises et allemandes. En Hongrie, le régime féodal est aboli par la Diète. En Serbie, l'indépendance est proclamée en avril 1849, mais la révolte est écrasée en août suivant par l'Autriche, aidée par l'Empire russe, qui estime donc que l'Autriche a une dette envers lui. Pourtant, l'Empire d'Autriche comprend de nombreux peuples slaves, et c'est pourquoi cette puissance regarde avec appréhension l'expansionnisme russe et leur volonté de créer des protectorats sur les territoires slaves de l'Empire ottoman. Après les récentes révoltes, la peur d'un soulèvement des Slaves va pousser l'Empire à ne pas soutenir les Russes et à l'inverse va mobiliser une armée de 100 000 hommes à ses frontières danubiennes, ce qui aura un impact sur le conflit. Mais ça, nous en reparlerons dans notre second épisode.
Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай. вспоминай, ай-яй-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй-яй.
Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Детство, помню наше место. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Baba Lila, never Lila. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Детство, помню наше место. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся?
Passons maintenant au Royaume-Uni. Le pays s'est investi dans les affaires ottomanes et voit dans cet empire un gage de stabilité en Orient propice au commerce. Sans compter qu'elle voit au contraire d'un très mauvais œil la montée en puissance russe. Ces derniers menacent les détroits de la mer Noire et se comportent de plus en plus comme les gendarmes de l'Europe. L'Angleterre ne peut pas tolérer qu'une puissance se distingue à ce point des autres et y voit une menace. Quant à la France, donc, après la défaite de Napoléon, le pays voit revenir au pouvoir la monarchie à travers la dynastie des Bourbons et Louis XVIII, frère cadet du défunt Louis XVI. À sa mort, n'ayant pas d'enfant, c'est son frère, le comte d'Artois, qui lui succède sous le nom de Charles X. Seulement, ce dernier, voulant renouer avec une pratique absolutiste du pouvoir, est renversé en 1830 par une nouvelle révolution parisienne, les Trois Glorieuses. Il est remplacé par un nouveau régime, la monarchie de Juillet, dirigé non plus par le roi de France, mais le roi des Français, Louis-Philippe, duc d'Orléans, et fils du célèbre Philippe Égalité, ayant plutôt, lors de la Révolution, voté la mort du roi de France, Louis XVI. Mais comme dit auparavant, Louis-Philippe est lui-même emporté par une révolution en 1848, le printemps des peuples, remplacé cette fois-ci par la Seconde République. Cependant, il ne faut pas retirer une chose à la monarchie de Juillet, c'est le retour à l'idée de la souveraineté nationale. La France veut redevenir une grande puissance à la fois commerciale mais aussi internationale. Alors que jusqu'alors, les différents rois français avaient toujours cherché à satisfaire la Sainte Alliance, ce groupe de pays ayant vaincu Napoléon. Mais là encore, la Seconde République n'a pas fait long feu, puisqu'après un coup d'État, le président de la République s'accapare le pouvoir en 1852 et réinstaure l'Empire. Son nom, Napoléon III. Le coup d'État mit l'Europe en ébullition. La prise du pouvoir du neveu de Napoléon raviva d'anciennes craintes, et les puissances européennes se préparent à la guerre. Afin de les rassurer, Napoléon déclara en octobre que l'Empire, c'est la paix, même s'il n'était pas satisfait de la carte de l'Europe issue du Congrès de Vienne. Sa politique étrangère fut donc essentiellement destinée à restaurer l'influence française en Europe, ainsi que d'affirmer sa légitimité, et estima que la meilleure manière d'y parvenir serait de se rapprocher du Royaume-Uni. A l'inverse, le souvenir de la retraite de Russie et le rejet du principe des nationalités par le tsar le poussaient à vouloir s'opposer à la Russie. Nous y voilà, parlons maintenant de la Russie et de l'Empire ottoman. Chacun leur manière, enfants de Byzance, Russes et Ottomans se sont affrontés pendant plus de 3 siècles autour de la mer Noire. Au début du 19e siècle, la survie de l'Empire Ottoman est en jeu. À Saint-Pétersbourg, à la cour des Romanov, on commence à rêver à une reconquête de l'ancienne Constantinople. C'est le début de la question d'Orient. Suite aux victoires russes de la fin du XVIIIe siècle, les Russes envisagent de reconstituer un empire. Ils encouragent les populations orthodoxes à se soulever, à commencer par celles de Moldavie et de Valachie au niveau de l'actuelle Roumanie. En 1787 débute une nouvelle guerre russo-turque. La Sublime Porte, en grande difficulté, est sauvée par la Révolution française qui amène l'Autriche à se retirer du conflit. La Russie signe une paix de compromis à Agassi, en Roumanie, en 1792, et se voit confirmer le Dniestr pour frontière. Parallèlement, elle poursuit son avancée au Caucase et annexe la Géorgie en 1800. En guerre contre Napoléon Ier, le tsar Alexandre Ier en profite pour occuper à nouveau les principautés roumaines. Par le traité de Bucarest du 28 mai 1812, la Russie devient le garant des principautés roumaines ainsi que de la Serbie qui obtient son autonomie. Avec la chute de Napoléon et le retour de l'autocratie, la Russie affermit son emprise sur le Caucase mais doit faire face à la résistance de l'imam Chamil à partir du Daghestan qui perdure jusqu'en 1859. Le ciel continue de s'obscurcir au-dessus de la Sublime Porte. L'Algérie, nominalement sous l'autorité ottomane, est occupée par la France et le vice-roi d'Égypte Mehmet Ali défie le sultan. C'en est trop pour le tsar qui veut conserver le sultan sur son trône pour l'exploiter à sa guise. Quand en 1832 l'armée égyptienne se rapproche dangereusement d'Istanbul, la flotte russe vient mouiller dans le Bosphore afin de protéger le sultan Mahmoud II. En 1848, le printemps des peuples change une nouvelle fois la donne. La Russie joue un rôle central dans la répression du mouvement national qui menace son empire. Elle intervient, comme on l'a déjà dit, en Hongrie pour le compte du nouvel empereur autrichien François Joseph et soutient la répression que mènent les Turcs dans les principautés roumaines. Désormais, Nicolas Ier, qui pense tenir sous influence l'Autriche et la Prusse, se sent en mesure de proposer à la Grande-Bretagne un partage qui mettrait sous l'égide de l'Empire russe les principautés roumaines, la Serbie, la Bulgarie et le Détroit. L'Égypte étant placée dans la sphère de l'Angleterre. Devant cette faiblesse apparente des Ottomans, on entend le tsar dire de l'Empire musulman à l'ambassadeur britannique en janvier 1853 « Nous avons sur les bras un homme malade, très malade. Ce serait un grand malheur s'il devait nous échapper avant que les dispositions nécessaires soient prises. » La situation est claire. La Russie va passer à l'action. La guerre de Crimée est sur le point de commencer. Mais nous verrons ça dans le second épisode. En attendant, vous connaissez la chanson. Si vous souhaitez me faire un retour sur l'émission, n'hésitez pas à me contacter à martin@radiovassivière.com. martin@radiovassivière.com. De même, si vous possédez des recherches, des bouquins ou des infos sur l'histoire locale, n'hésitez pas à me les partager et je me ferai un plaisir d'en faire un ou plusieurs épisodes. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de l'émission sur radiovassivière.com. Le prochain épisode, ce sera le 21e et dernier de la saison avant les vacances et la reprise en septembre. Je vous souhaite le meilleur et de passer du bon temps sur le 88.6 et 92.3.
Ah! Mais trop, pique ton cœur, Caroline.